Nous sommes reconnaissants à notre Dieu de tout notre cœur. Si vous ressentez tous comme moi, nous pourrions nous prosterner et adorer à cause de la grâce et de la bonté, à cause de tout ce que Dieu a fait. C'est une grâce qu'on ne mérite pas. Là encore, je pense aux paroles de Frère Branham. Il dit, quand vous arriverez de l'autre côté, vous y trouverez une petite cabane et alors vous m'entendrez chanter « Amazing Grace, how sweet thy sound ». Étonnante grâce comme ton son est doux. Et puis vous continuez, et puis ça continue. La traduction allemande ne peut pas être faite autrement qu'en suivant. Der einen solchen Schuft wie mich gerettet hat. En français, qui a sauvé une telle crapule comme moi. C'est un mot assez dur. Mais vous savez, quand j'entends de temps en temps comment les gens se jugent les uns les autres, et il y en a aussi qui ne m'épargnent pas, alors je dis simplement, Seigneur, c'est encore très différent. Je suis bien pire que ce qu'ils font de moi et que ce qu'ils pensent de moi. Et puis je me sens déjà mieux. Mais c'est comme ça pour nous tous, avec nous tous. Ne vous énervez pas pour ça. Qu'est-ce que l'homme, soyez honnête. Qu'est-ce que l'homme? Si la grâce de Dieu n'avait pas pris soin de nous, ou bien nous n'avait pas accepté, où serions-nous aujourd'hui? Alors, glorifions la grâce de Dieu du début à la fin. Aujourd'hui, nous avons entendu un beau témoignage d'une sœur de Sicile. Et ce n'est pas seulement le témoignage qui m'a impressionné, mais son beau français. Frère Joseph rit maintenant, mais elle a parlé si finement que j'ai presque pu me passer de la traduction. Et c'est ce qui m'a le plus réjoui. Il y a beaucoup de besoins, il y a des demandes de prière, le combat devient de plus en plus chaud, mais Dieu a promis d'être avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. J'espère que nos frères et sœurs francophones se sentent bien. Et je souhaite aussi à mon bien-aimé frère Kupfer de trouver toujours de nouvelles forces pour traduire. Vous savez, quand c'est doctrinal et qu'il faut ouvrir de nombreux passages bibliques, à quel point cela doit être laborieux pour une traduction. Soyez patient avec lui, vous connaissez si bien les Saintes Écritures, même si vous ne pouvez ou ne pouvez pas toujours les ouvrir, vous le savez et pouvez le consulter vous-même. Votre frère Gaïdetch se donne aussi beaucoup de mal pour traduire. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Nous aimerions que tous ceux qui sont ici entendent aussi ce qui est dit. Vous commencez à connaître mon attitude envers la parole, envers Dieu et envers ce qui est dit. Chaque fois qu'une parole est lue ici en guise d'introduction, je peux m'y adhérer si intimement et de tout mon cœur, mais mes pensées passent déjà d'un passage biblique à un autre. J'aimerais en mentionner deux en rapport avec la parole qui a été lue. Si frère Rousse pouvait m'aider et me dire où nous avons lu. Ésaïe 48, verset 12, oui. Ésaïe 48, verset 12. Verset 14 doit absolument être lu à ce sujet. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. Je suis le même, moi le premier et moi aussi le dernier. Donc Ésaïe 48, maintenant le verset 13. Ma main a fondé la terre, ma droite a étendu les cieux. Si je les appelle, ils sont tous là. Maintenant arrive. Rassemblez-vous tous et écoutez. Rassemblez-vous tous et écoutez. Qui d'entre eux a prédit ceci? La prochaine pensée. La pensée suivante concerne le vêtement. Afin que la honte de notre nudité ne se manifeste pas, nous serons vêtus. Le prophète Ésaïe parlait déjà des vêtements du salut. Du bandeau. Il savait déjà ce qui allait se passer à travers Golgotha. Dans Apocalypse 19, cette foule vêtue de blanc est montré dans son achèvement, dans la gloire. Je lis Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces, donc Apocalypse 19, verset 7, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. D'autres traductions disent la justice des saints. Ici, nous avons déjà dit, comme aussi c'est écrit dans le prophète Ésaïe, notre justice apparaît devant Dieu comme un vêtement souillé. Mais la justice de Dieu qui nous a été rendue en Christ par Golgotha est une justice absolue et sainte, divine. Et nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un deuxième sacrifice n'est plus nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est une foi authentique en l'œuvre de rédemption accomplie une fois pour toutes à Golgotha. Loué soit le nom du Seigneur. Dieu ne fait pas de choses à moitié ou bien en partie. Dieu a fait quelque chose de parfait. Mon cœur est touché. Je lis encore deux passages de Matthieu 13. Vous savez, c'est le chapitre que notre Seigneur Jésus, c'est le chapitre dans lequel notre Seigneur Jésus a parlé des paraboles, a parlé de paraboles de manière très particulière. Au verset 9, il fait une petite pause. Matthieu 13, verset 9. Matthieu 13, 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au même chapitre, au verset 43, la dernière partie, que celui qui a des oreilles entende. Le prophète Ésaïe avait prophétisé. Ils n'entendent pas de leurs oreilles et ils ne voient pas de leurs yeux. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas et dans leurs yeux, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Et c'est pourquoi nous pouvons être reconnaissants. Si Dieu a ouvert notre oreille à la manière des disciples pour entendre quoi? Ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est là que nous revenons à notre sujet. Ce ne sont pas les hommes, mais le Seigneur qui parle. Encore aujourd'hui, par sa parole. Les hommes interprètent, l'Esprit de Dieu révèle même les profondeurs de la divinité et nous la rend plus claire à nous, les hommes simples. Tel que jamais les sages, par leur érudition pourrait la sonder. Nous sommes tous placés au même niveau et sommes insérés dans les mystères de Dieu. Il a fait de nous des personnes prêtes à écouter, prêtes à recevoir, prêtes à croire. C'est le temps où il n'y a pas seulement du fruit au 30e ou au 60e, mais du fruit au centuple. Quand la parole a été révélée et rendue à 30%, la récolte ou le fruit peut avoir été en conséquence. Nous vivons à l'époque de la restitution totale, de la restauration totale, de toutes choses. Aujourd'hui, nous n'avons pas un 30%, un discernement sur le plan de Dieu à 60%. Non, j'ose dire que nous avons aujourd'hui un aperçu complet du plan de salut de notre Dieu et que Dieu attend plus de nous que de tous ceux qui ont reçu dans les générations précédentes. Car celui à qui l'on a confié beaucoup de choses, on exigera beaucoup de lui. Il ne sera pas facile de donner la réponse ce jour-là. J'ai confiance que le Seigneur Dieu pourra dire ce jour-là, bien fait, entre dans la joie de ton Seigneur. Nous avons déjà entendu parler dans Apocalypse 3 de l'or que nous devons acheter. Laissez-moi lire le chandelier d'or, sur le chandelier d'or, afin que nous sachions dans quelle direction l'Esprit de Dieu nous conduit et nous dirige, et nous guide, pour savoir aussi de quoi il s'agit. Cet après-midi, nous avons une étude biblique. Il n'est pas toujours possible de prêcher avec puissance. J'ai devant moi un grand voyage à Singapour, en Indonésie, aux Philippines et ainsi de suite. Et j'espère que vous vous souviendrez de moi dans vos prières pendant ces temps-là. Apocalypse chapitre 1, verset 12 et ensuite verset 20. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Puis je me retournais et je voulais chercher à voir la voix qui me parlait. Et quand je me retournais, je vis sept champs de liers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, etc., etc. Donc, il s'agit ici pour nous principalement des sept chandeliers d'or. Une église en sept époques. Il n'y a qu'une seule église et c'est l'église des premiers-nés. Mais il y a ces sept époques par lesquelles cette église est passée. Apocalypse 1, verset 20. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Nous avons toujours les deux dans les Saintes Écritures, parfois la tâche et alors aussi la réponse, parfois les questions et la réponse à ces questions. Il n'est plus nécessaire de l'interpréter. Cette église, cet ange, cette étoile, cet messager pour les sept églises. Et ils étaient tous à la main droite du Seigneur ressuscité qui marchait au milieu des sept chandeliers d'or. Je n'oublierai jamais le jour où l'embarras que j'ai perçu lorsque quelqu'un a voulu me convaincre que Dieu avait maintenant un huitième messager. Je lui ai alors rappelé cette parole et lui ait demandé, le Seigneur n'en avait que sept dans sa main. Alors dans la main de qui se trouve le huitième? Si le Seigneur n'en avait que sept dans sa main, et ce serait, et qu'il devrait en avoir un huitième, dans la main de qui serait-il alors? Non, pas avec nous. Nous avons un lien direct avec la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous disons, je me tiens ici, que Dieu me vienne en aide. Et nous nous tenons sur la parole infaillible de Dieu. Dieu n'a pas promis un huitième messager. Dieu a seulement promis qu'au jour de la voix du septième, tout sera conclu et que nous devons y répondre et l'accepter. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrire à l'ange de l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, verset 1. Ainsi parle celui qui tient fermement les sept étoiles dans sa main, fermement, dans sa main droite, et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Il ne se contente pas de les tenir dans sa main droite. Il les tient fermement dans sa main, dans sa droite. Et sa droite est élevée. Et sa droite conserve la victoire. Il ne peut en être autrement. Le fait que Jésus soit vainqueur reste toujours établi et ferme, a proclamé quelqu'un, et nous le croyons de tout notre cœur. Aucun de ces messagers de Dieu ne pouvait être gouverné par des hommes. Il n'avait qu'une seule obligation, et c'était envers Dieu. Je voudrais, parce qu'il est écrit ici, qu'il marche ici, et ainsi de suite, lire la promesse de l'Épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, et revenir à Moïse pour nous montrer que la promesse faite par le Seigneur s'est ainsi réalisée. Il marche au milieu des sept chandeliers d'or, des sept. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, il est écrit au verset 16. De Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Pas seulement habiter, marcher, agir, parler, vivre. Lorsque le Seigneur est au milieu de nous, il veut se sentir libre. Et nous voulons lui laisser toute la place. Et je le dis avec un cœur sincère, Seigneur, mets-moi de côté et toi, reçois ce qui te convient de plein droit. C'est tout ce dont j'ai besoin et tout ce que je veux. Et je crois que c'est tout ce que nous voulons tous. Personne ne vient ici pour faire étalage de sa sagesse. Nous venons ici dans le respect devant Dieu et pour écouter la parole révélée pour cette heure et pour devenir une partie de la parole afin que la parole puisse aussi s'incarner et devenir chair par nous et en nous. Ainsi parle le Seigneur. Il relit le milieu du verset 16. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ainsi parle le Seigneur, j'habiterai et je marcherai au milieu de Jean. Jean l'a vu marcher au milieu des sept chandeliers d'or. Il a fait sa demeure parmi son peuple. Le jour de la Pentecôte, il est venu par le Saint-Esprit pour habiter le cœur des rachetés. Pour habiter le cœur des rachetés comme il est écrit ici. Il est écrit aussi, Paul l'exprime, Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dites maintenant, en toute honnêteté, quelle est la profondeur de ton désir de voir cela être accompli ici, par nous, au milieu de nous, que nous puissions écarter tout obstacle à Dieu pour qu'il puisse trouver son bon plaisir en nous, pour qu'il ne reste pas dehors pour ensuite frapper, mais qu'il soit à l'intérieur pour qu'il puisse marcher, parler, agir, vivre comme il le veut. Est-ce là ce que nous désirons tous? Sincèrement, cela doit devenir pour nous une nécessité, une détresse de dire, Seigneur, accomplis ta parole pour nous. Passons à Lévitique 26. Lévitique, chapitre 26, verset 12, il est écrit. Lévitique, chapitre 26, verset 12. Mais je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'était la promesse. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a dû dire, pendant 40 ans, j'ai eu du dégoût pour ce peuple, car c'est toujours là qu'ils s'égarent avec leur cœur, parce qu'un renouvellement du cœur n'était pas encore possible. Dans le Nouveau Testament, il est possible. Mais l'avons-nous expérimenté personnellement? Maintenant que c'est possible, Dieu a-t-il pu nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau et une vie nouvelle? C'est cela qui compte. Mais je veux marcher au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte afin que vous ne soyez plus leurs serviteurs. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher droit. C'est cela la rédemption, c'est cela la libération. C'est ça l'exode, le joug sous lequel nous avons souffert est brisé. Puis notre Seigneur dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Il a brisé le joug qui nous avait entraînés dans le domaine hostile de l'ennemi et nous a placés avec lui sous un même joug afin que nous puissions suivre non pas nos propres voies, mais désormais les siennes. Et il nous a relevés. Loué soit le Dieu vivant. La main était très faible. Il faut que cela change, car c'est notre histoire. Il a brisé le joug. Il a ouvert la prison, a proclamé « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi ». Il a annoncé la libération à ceux qui étaient liés et la liberté à ceux qui étaient en prison. Il ne l'a pas seulement annoncé, d'autres l'ont fait avant lui. Mais lui, il a apporté les choses qu'ils ont annoncées. Il était et est le libérateur. Il était et est le vainqueur de Golgotha. Il a brisé le joug du péché. Il a relevé ceux qui étaient affligés et chargés et fatigués. Il a mis nos pieds sur le chemin de la paix. Loué soit son saint nom. Passons à Exode 25. Je voulais vous montrer dans une toute petite leçon d'illustration comment le même Esprit de Dieu était dès le commencement sur les prophètes et ensuite sur les apôtres, et que tous parlaient, ou bien alors ont parlé tous le même langage et puisaient à la même source divine de révélation. Exode 25, verset 31. Exode 25, verset 31. Tu feras en outre un chandelier d'or, d'or fin. Le chandelier, sa base et sa tige seront faits d'ouvrage battu. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Rien ne doit être fait à la va-vite. Tout devrait être fait d'une seule et même masse, de bas en haut, de haut en bas. Et il en est ainsi aussi. C'est la même chose que ce que notre Seigneur a donné comme exemple dans Jean 15 à propos du sceptre et des sarments. Personne n'y va pour y planter des sarments à un moment donné. Le sceptre est rempli de vie et il jette ses pousses et les sarments sortent. Et qu'y a-t-il alors dans les sarments? La vie du sceptre se manifeste. La vie devient visible et elle forme une unité. Il a dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Nous n'avons alors plus de soucis à nous faire pour porter du fruit. Si sa vie est en nous, frères et sœurs bien-aimés, c'est là que nous apprenons notre leçon de la nature. Est-ce que le pommier, le cerisier ou tout autre arbre doivent faire des efforts lorsque le soleil se lève et que la saison est là et que la loi de Dieu qu'il a placée dans la nature devient effective? Alors la sève passe par les racines et elle apporte tout avec elle. Elle apporte les bourgeons, les fleurs, le fruit. Si l'on voulait chercher le fruit quelque part, on ne le trouvait pas encore. Mais au stade final, il est là. Par la volonté de Dieu, parce qu'il a ordonné ainsi. Si nous sommes plantés, nous n'avons plus à nous soucier de porter du fruit. Nous sommes plantés près de ruisseaux d'eau. Et Dieu dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie, ne dis pas que je suis un arbre desséché. Pourquoi pas? Dieu n'a pas d'arbre sec. Dieu veut nous remplir de vie, de sa vie divine qu'il nous a donnée par grâce. Jean a vu ce chandelier en or. Moïse l'avait déjà fabriqué. Moïse a dit, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Ici, nous voyons déjà le mystère de l'Église se dessiner. Et vous pouvez revenir à Genèse 12, verset 2. Le jour même où l'Éternel Dieu a fait de son peuple d'Israël son assemblée en la faisant sortir d'Égypte, du pays. Le mot « assemblée » apparaît pour la première fois. Auparavant, il s'agissait des descendants ou des rejetons ou du peuple d'Israël. Depuis le jour de la sortie, ce n'était pas seulement un peuple, mais l'assemblée du Dieu vivant. Pour ne pas dire l'Église. Nous sommes devenus les mêmes par Golgotha. Ici, un chandelier d'or, comme il est beau que Moïse ait déjà reçu la révélation de différentes manières. En vue de choses futures, dans de nombreuses, par de nombreuses images, par de nombreuses images, on pourrait parler de l'arche d'alliance ici, de l'arche d'alliance, de la table, des pains, de propositions, on pourrait parler des sacrifices. Partout, Dieu a déjà fait prédire par des images ce qui allait arriver un jour. Ce que je voudrais bien vous lire ici encore, c'est de Exode, chapitre 25, le verset 17. Car ça pourrait être que nous revenions encore ici. Exode 25, du verset 27. Du verset 17, pardon. Verset 17. Fais ensuite une plaque en or fin servant de couvercle. Le propitiatoire, long de deux coudées et demi et large d'une coudée et demi. Tu feras en outre deux chérubins d'or travaillés dans un ouvrage battu, aux deux extrémités de la plaque servant de couvercle, le propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses deux extrémités, formant une seule pièce avec lui. Je ne sais pas jusqu'où nous irons aujourd'hui, mais mon esprit se réjouit et exulte en Dieu, mon Sauveur, de la gloire de sa parole, de la clarté qu'il a donnée, et plus encore sur le fait qu'en ces jours, nous pouvons faire partie de ce que Dieu fait de nos jours. Nous y reviendrons peut-être. Vous savez que l'arche de l'Alliance a été placée derrière le rideau et que c'est là que Dieu a parlé à Moïse. Bien alors derrière le voile. Permettez-moi de lire cela dans le verset 22, Exode 25, verset 22. C'est là que je te rencontrerai alors. Et du haut de la plaque du couvercle, le propitiatoire de l'espace entre les deux chérubins qui sont sur l'arche de la loi, je te ferai connaître tout ce que j'ai à ordonner aux Israélites par ton intermédiaire. Cela nous mènerait trop loin si nous venions à parler du souverain sacrificateur qui entrait une fois par an pour présenter le sacrifice, pour offrir le sang sur le propitiatoire. Donc appelé aussi trône de la grâce, pour entendre ensuite la voix de Dieu venant de la gloire qui se reposait sur les chérubins qui étaient au-dessus des plaques du couvercle, donc du propitiatoire. Et lui, Dieu, lui parla et lui donna la réponse. Et il sortit et l'apporta au peuple. Nous lisons encore dans l'Apocalypse et l'arche de l'Alliance fut visible. Revenons au chandelier d'or. Zacharie chapitre 12, et plutôt Zacharie chapitre 4, plutôt, verset 2. Voici ce qui est écrit ici. Zacharie 4, verset 2. Zacharie 4, verset 2. Il me demanda, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or, avec un réservoir d'huile à son sommet et sept lampes qui y sont fixées et sept conduits de coulée pour les lampes qui y sont fixées. L'image devient ici déjà plus claire. Pas seulement un chandelier en or et tout ce qui va avec. Maintenant, il y a déjà le le réservoir d'huile au-dessus du chandelier d'or. Et le prophète Zacharie voit déjà dans l'Ancien Testament la répartition septuple du Nouveau Testament. Il voit sept tuyaux, donc sept conduits de coulée descendre de l'unique réservoir d'huile pour alimenter les sept lampes afin que la lumière soit sur la terre à chaque époque. Qu'en dites-vous? Auriez-vous demandé à Zacharie, écoute, sais-tu de quoi tu parles en fait? Alors il aurait peut-être répondu, comme le dit Pierre, que ces hommes ont sondé à savoir à quelle époque l'esprit du Christ les indiquait, l'esprit discret en eux leur indiquait, mais qui ne l'ont plus vécu ni vu. Un chandelier d'or, sur le chandelier d'or, le réservoir d'huile, l'âge du Saint-Esprit, le Saint-Esprit répandu pendant le temps de grâce du Nouveau Testament. Cette époque, la même Église, et l'huile descend, coule dans celles différentes, dans ces lampes. Moïse devait déjà fabriquer les lampes. Et la table se trouvait en face du chandelier. Cela aussi est une image magnifique. Le chandelier n'était pas dans un coin quelconque. Le chandelier se trouvait en face de la table avec les pains de proposition afin que tous voient la nourriture de Dieu et qu'elle soit éclairée. Gloire à Dieu, au Dieu vivant. Notre Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il connaît cette disposition jusque dans les moindres détails. Heureux sommes-nous si nous voyons maintenant l'image parfaite comme ces choses s'approchent de la perfection, car nous attendons de nos jours que Dieu ne se contente pas de révéler sa parole et son œuvre, mais qu'il les achève. Dans Hébreux 9, je voudrais lire Hébreux 9 du verset 3. Vous pouvez lire avant. Au verset 3, il est écrit: mais derrière le second voile se trouve la partie de la tente appelée le lieu très saint, avec l'autel d'or des parfums et l'arche d'alliance toute couverte d'or, dans laquelle se trouve la cruche d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fait éclore des fleurs, et les tables de l'Alliance. Mais en haut, au-dessus d'elle, se tiennent les chérubins de gloire qui couvrent de leur ombre la plaque servant de couvercle, le propitiatoire. Mais ce n'est pas de cela qu'il faut parler maintenant en détail. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a déjà fait savoir aux gens de l'époque. Nous n'entrerons pas non plus dans les détails aujourd'hui. Mais Dieu a un plan avec son Église. Et son Église représente ce chandelier d'or. Dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, il y avait également des choses qui ont une grande importance. À quoi servirait-il de voir le chandelier, de voir la table des pains de proposition et de ne jamais entendre la réponse de Dieu et qui s'élève au-dessus du propitiatoire où le sang a été offert? Quand il parle de depuis la gloire entre les deux chérubins, Dieu a parlé, lui, car le voile du temple s'est déchiré et le chemin est devenu libre. Aujourd'hui, personne ne doit s'arrêter en chemin. Aujourd'hui, chacun peut entrer dans le sanctuaire céleste sous l'aspersion du sang de l'agneau. Dans le sanctuaire céleste. Et il est également écrit dans l'Épître aux Hébreux ici que c'est là la voie nouvelle et vivante. Ce chemin nouveau et vivant, nous pouvons le parcourir avec Dieu. Venons-en au chapitre 4 de l'Apocalypse, Apocalypse 4, Apocalypse chapitre 4. Je ne pense pas qu'il y ait un livre dans la Bible que nous préférions ouvrir plutôt que ce dernier livre. Ce qui a été caché pendant des siècles, des millénaires, Dieu nous l'a révélé par grâce. Ici, dans Apocalypse 4, le verset 2 et 3, il est écrit. Apocalypse 4, verset 2. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, etc., etc., etc. Ensuite, le verset 6, la deuxième partie du verset 6. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis. Dieu remplit Dieu devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Nous parlerons très brièvement de ces êtres vivants que Dieu a choisis. Avant de le faire, je voudrais ouvrir Ézéchiel, chapitre 1, et vous montrer que ce prophète a déjà vu cette partie autrefois. Le plan de salut de Dieu a déjà été exposé par les prophètes. Seulement, il n'était pas parvenu à son accomplissement à leur époque. Ézéchiel chapitre 1, du verset 5. Au milieu de lui apparut alors quelque chose qui ressemblait à quatre êtres vivants, dont voici l'aspect, ils avaient forme humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Leurs jambes étaient droites, mais la plante de leurs pieds était comme la plante du pied d'un veau. Et ils scintillaient comme du cuivre poli. Sous leurs ailes, il y avait des mains d'hommes des quatre côtés. Et tous les quatre avaient des ailes, etc., etc. Vous pouvez encore lire cela en toute confiance et en toute tranquillité dans les versets suivants. Je ne sais pas qui d'entre vous a entendu ou lu la prédication. Frère Branham a fait référence aux quatre évangiles ici. Ce sont des liens de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament concernant ces quatre êtres vivants. J'ai une des éditions allemandes de la Bible qui s'est permis de mettre encore ces symboles devant, dans l'évangile de Matthieu, comme dans celui de Luc ou de Marc, partout, en première place, avant chaque évangile, il y a en première place le signe pour cet évangile qui correspond à l'évangile et au caractère de l'évangile. Et ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ces êtres vivants étaient en relation avec le sang d'expiation offert, le sang de la réconciliation offert, à savoir au-dessus de l'arche de l'Alliance, et que Dieu a offert un grand jour de réconciliation et d'expiation et a tourné sa face vers son peuple. Le prophète Ézéchiel a vu des mains d'hommes à quatre. Donc, chez tous les quatre, il y avait encore aujourd'hui des gens qui disent « Oui, les quatre évangiles et le reste des saintes écritures ont quand même été écrits par des hommes. » Ai-je jamais prétendu le contraire? Ou qui a prétendu le contraire? Il y avait des mains d'hommes. Mais Dieu a guidé les mains des hommes. Dieu a inspiré. Dieu a révélé. Les gens cherchent. Ils ne cherchent pas ce qu'il y a de commun dans les quatre évangiles. Ils cherchent les différences. Et puis ils disent, oui, l'une a omis ceci, celui-ci a encore rapporté cela, et celui-là n'a pas rapporté cela. Et voyez, si ces quatre-là avaient été dans la même pièce, ils auraient pu copier les uns sur les autres. Dieu a fait en sorte que la diversité et la multiplicité soient révélées par une description globale. Chaque fois que nous rencontrons le chiffre 4 dans la Bible, il s'agit de l'est, de l'ouest, du sud et du nord. Tout est alors compris et inclus. Lorsque le prophète Ésaïe dit, Daniel dit par exemple, « J'ai vu les quatre vents agiter la mer. » Il savait de quoi il parlait. Il ne s'agissait pas seulement d'une partie déterminée quelque part, mais la terre entière était alors incluse dans ce qui était montré. Ici, dans le prophète Ézéchiel, nous avons déjà la description exacte. Des mains humaines étaient sous leurs ailes. Nous avons maintenant les quatre évangiles. Chacun a une empreinte particulière. L'un apporte tel registre, l'autre tel autre. L'un rapporte ceci, l'autre cela. Et Jean commence par ces mots. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Il n'a pas du tout les pieds sur terre, n'est-ce pas? Il vole dans les airs comme un aigle et nous montre du point de vue de Dieu qui est cet homme de Golgotha. Les uns ont la généalogie ici et la généalogie là, ils commencent comme ça. Et puis, il y a encore une lacune ici et une autre là. Et les scribes s'y arrêtent, n'est-ce pas? Nous voyons exactement de quoi il s'agit. Ce qui me touche le plus dans cette description globale, je veux vous le dire maintenant. Ce qui me touche le plus, c'est que Dieu a choisi l'animal impur qu'il a placé selon la loi en première position parmi les oiseaux du ciel qui ne devait pas être mangé. C'est ce qu'il a choisi pour faire connaître la plus grande chose qui ait jamais pu être révélée. Si vous lisez Moïse, tout le registre de ce que les hommes doivent ou ne doivent pas manger, l'aigle est alors en première place parmi les animaux impurs. Avez-vous déjà lu? Oui? Eh bien, vous êtes tous. Amen. Je ne veux pas vous faciliter la tâche. Dites-moi où c'est écrit et alors moi je dirai Amen. Lisons-le dans Lévitique au chapitre 11. Lévitique, chapitre 11. Et alors vous verrez ce que Dieu est capable de faire. Qu'est-ce que je viens de dire? Lévitique, chapitre 11, verset 13. Oui, ici il est écrit. Mais parmi les oiseaux, vous aurez en horreur les suivants qui ne peuvent être mangés et qui sont une abomination. L'aigle, le vautour barbu, le vautour des agneaux, etc., etc. L'aigle est le premier des oiseaux impurs. Quelqu'un pourrait demander, mais qu'est-ce que Dieu a fait ici? Le Dieu saint, le Dieu pur, qu'a-t-il donc fait ici pour qu'il fasse encore d'un tel oiseau le symbole d'une chose très grande et très particulière? Vous pouvez lire la même chose dans Deutéronome 14, verset 12. Il y a la même représentation et l'aigle est à la première place, Deutéronome 14, verset 12, parmi les oiseaux impurs. J'ai été une fois dans une maison. Cela ne pouvait être nul par ailleurs qu'aux États-Unis. Et là, ces gens m'ont dit, frère Frank, nous avons une très bonne nouvelle pour toi. Tu sais, nous avons reçu le message de l'aigle et la nourriture de l'aigle et nous nous en sommes tellement réjouis. Puis le frère dit, ma femme était tellement touchée et enthousiasmée, elle a acheté chaque aigle qu'elle a seulement trouvé et notre collection dépasse les 100 pièces. Eh bien, ce n'était pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? On y a mis le prix. Nous croyons tout. Mais maintenant vient le comble. Notre Seigneur dit, en quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Il y a quelques passages bibliques sur lesquels nous pourrions presque trébucher. Mais ce n'est pas possible. Car ce que Dieu place devant nous, ce ne sont pas des pierres d'achoppement. Ce sont des marches sur lesquelles nous pouvons monter pour nous rapprocher de Dieu, pour mieux le comprendre. Je vais vous lire une parole tout à fait magnifique, tirée de Deutéronome 32. Deutéronome 32. En référence au Seigneur Dieu lui-même, il y a une comparaison avec l'aigle. Deutéronome 32, verset 10. Ici, Dieu dit. Verset 11. Comme l'aigle qui fait sortir sa couvée du nid et plane au-dessus de ses petits en battant des ailes, étend sur eux ses ailes, les saisit, les porte sur ses ailes. Ainsi, l'Éternel seul dirigeait le peuple. Il n'y avait pas de Dieu étranger avec lui. Dieu sait, comme je l'ai dit, ce qu'il fait. Et vous le verrez. Lui le pur, lui le saint, a été fait péché pour nous afin que nous participions à la pureté et à la sainteté de Dieu. Qu'en était-il avec Moïse? Il devait mettre sa main dans son sein et déjà elle était arrivée au-dessus de son cœur. Et qu'est-ce qui sort du cœur? Toute la méchanceté qu'il y a sur la terre vient du cœur. Et il retire sa main. Et il est effrayé, plein de lèpre. Lèpre, un mot pour le péché dans lequel nous étions. Et il y remet sa main et il en retire. Et il la retire et quelque chose de nouveau est arrivé. Dieu lui a montré de manière imagée une purification de la lèpre. Le bâton qu'il avait, qu'est-ce que c'était? Il devait le jeter. Et il se transforma en serpent. Moïse fuit, prit la fuite. Et soudain, le Seigneur dit, prends-le par la queue. Et je suis tout à fait honnête. J'aimerais voir l'homme parmi nous qui devant une telle bête, devant un tel serpent, ne prendrait pas la fuite. Et s'enfuirait pas loin. Nous sommes tous des héros ici, sur le banc. Mais allez dans n'importe quel buisson et tout cela, et tout sera différent. Je n'aurais pas voulu être dans les souliers de Moïse à ce moment-là. Mais avec la présence de Dieu, oui. Car lorsque Dieu est présent, même l'impossible devient possible. Alléluia. Loué soit le Dieu vivant. L'Esprit de Dieu vient de me corriger. Amen. Amen. Alléluia. À la gloire du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Moïse ne devait pas être... Moïse n'était pas seul. Dieu était avec lui. Si Dieu est avec lui, qu'a dit notre Seigneur? Je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Et ensuite, que s'est-il passé? Moïse a pris le bâton. Et ce bâton est devenu, pour ainsi dire, l'instrument qu'il a reçu en chemin. C'était un signe de la puissance de Dieu. Le serpent et tout ce que Satan pouvait faire était désormais entre ses mains. Et il pouvait poursuivre son chemin en toute confiance avec Dieu. Tout ce que Satan pourrait faire était sous son contrôle. Encore un exemple des aigles du psaume 103 qui nous procurera certainement la plus grande joie. Car nous croyons tous, comme Job l'a dit, que nous serons ramenés au jour de notre jeunesse. Je lis le psaume 103 à partir du verset 1. Mon âme loue l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Loue l'Éternel, mon âme, et n'oublie pas les bienfaits qu'il t'a faits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, m'en arrive, qui sauve ta vie de la perdition, qui te couronne de grâce et de miséricorde, qui rassasit ta vieillesse de bienfaits et qui, comme l'aigle, renouvelle ta jeunesse. Vous remarquez de quoi? Remarquez-vous pourquoi Dieu a pris ici l'aigle? Il va, comme exemple, il va plus haut que tous les autres oiseaux. Il se renouvelle. Et combien de fois frère Branham a-t-il donné cet exemple? Un prophète prend son envol. C'est un homme né dans le péché. En fait, impur devant Dieu, mais Dieu le fait monter dans les hauteurs et il voit du point de vue de Dieu et proclame dans le peuple la volonté de Dieu. Il voit les choses du point de vue de Dieu et les proclame à Dieu. Nous étions impurs, au peuple, pardon. Nous étions impurs, mais nous ne le sommes plus. Nous étions perdus et nous sommes maintenant sauvés. Alléluia. Loué et gloire à l'Éternel. La plus belle parole de l'aigle se trouve dans Ésaïe 40. Oh, le prophète Ésaïe. Oh, le prophète Ésaïe, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a décrit le plan du salut de Dieu de la manière la plus grande, la plus majestueuse de toutes. Un homme exceptionnel, Ésaïe 40, ici nous lisons du verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel et mon droit est ignoré de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la vigueur en abondance à celui qui est défaillant. Que les adolescents se fatiguent et se lassent et que les jeunes hommes tombent en chancelant. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, des ailes nouvelles leur poussent. Comme celle de l'aigle. Il court et ne se lasse pas. Il marche et ne se fatigue pas. N'est-ce pas une parole glorieuse? Une parole merveilleuse également pour nous qui sommes d'un âge avancé. Je pense ici à l'histoire de Pierre. Je ne sais pas exactement si je peux l'ouvrir du premier coup. C'est probablement le chapitre 10 des Actes des Apôtres, où le Seigneur lui a donné une vision. Un drap est descendu du ciel et il a vu toutes sortes de bêtes et les oiseaux du ciel. Et oui, Actes des Apôtres 10, ici il est écrit au verset 12. et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Verset 13. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Alors pour la seconde fois, une voix lui cria, « Ce que Dieu a purifié, ne le déclare pas impur. » N'est-ce pas glorieux? Pierre aurait en effet pu voir tous les animaux comestibles. Mais alors, la leçon n'aurait pas pu avoir lieu. Pierre devait recevoir une leçon. Les païens, qui étaient sans Dieu, sans espoir, sans conclusion d'alliance, le coyote traité de chien, qui suivait ses propres voies. Et maintenant, Dieu veut changer la donne ici. La porte de l'évangile doit être ouverte aux païens. Et c'est pourquoi Pierre ne voit pas tous les animaux et les oiseaux purs. Il voit toutes les choses impures. Et il est saisi de terreur. Et dit, « Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur ou d'effrayant ou d'impur. » Donc, oui. Puis la voix lui cria pour la deuxième fois, « Ce que Dieu a purifié, ne le déclare pas impur. » Mais bien-aimés, si nous croyons en la pleine œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha, nous ne devons pas déclarer, n'étant pas valable ou bien invalide, ce qui s'est passé, mais annoncer et proclamer à chacun et regarder comme valable pour chacun la pleine rédemption et le pardon. Ne déclare pas impur ce que Dieu a purifié. Une question. Dieu nous a-t-il purifié par le sang versé à Golgotha? Oh, combien de passages pourrais-je lire maintenant? Dans l'épître aux Colossiens, dans l'épître de Pierre, on pourrait en lire beaucoup. Ce que Dieu a purifié par le sang saint de Golgotha, ne le déclare pas toi, ne le déclare pas impur. Car ce que Dieu a fait est valable éternellement pour chacun. Pourquoi donc est-il écrit qu'il nous a donné une rédemption valable éternellement et non temporelle. Là, on aurait pu revenir en arrière, introduire de nouvelles négociations. Non, une rédemption valable éternellement. Un évangile valable éternellement. Un plan du salut valable éternellement de notre Dieu avec son peuple. Donc, même une créature que Dieu a déclarée impure dans sa parole. Il peut nous la décrire comme purifiée dans un état majestueux. Et c'est là ton histoire et la mienne. Nous étions tous impurs. Nous n'aurions jamais pu nous relever. Aucun renouvellement n'aurait pu avoir lieu. Mais Dieu a fait en sorte que nous puissions être purifiés par grâce. N'êtes-vous pas heureux de cela? Je ne sais pas comment l'exprimer. Mais pour moi, c'est quelque chose de tout à fait glorieux. Tout à fait glorieux. Dieu a sa voix avec son peuple. Et il l'aura jusqu'à la fin. Il est au pouvoir. À lui la puissance. À lui la gloire pour l'éternité. Il fera de tous ses ennemis son marchepied et triomphera sur tout et nous avec lui. Chers frères, chères sœurs, ne considère plus comme impur ce que Dieu a purifié. Dieu a pardonné. Dieu a oublié. Dieu a expié. Dieu a donné une nouvelle vie. Il y a des gens qui sont toujours occupés à rouvrir le passé de quelqu'un d'autre. Et s'ils savaient qu'ils annuleraient alors ce qui s'est passé à Golgotha, pour eux-mêmes en fait, ils laisseraient leurs mains s'en aller et se prosterneraient sur la croix en disant Seigneur, sous la croix, et en disant Seigneur, prends pitié de moi, aie pitié de moi. Dieu ne veut pas que nous nous accusions les uns les autres. Il ne nous fait pas de mal non plus. Il ne nous accuse pas non plus. Il ne nous impute rien non plus. Il ne veut pas qu'on puisse qu'on soit en train de s'imputer les uns les autres des choses. Il veut que nous nous considérions comme purifiés et sanctifiés par le sang de l'agneau. Je lis encore dans Actes chapitre 10, verset 26. Actes chapitre 10, verset 26. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis qu'un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Et trouva beaucoup de personnes réunies, à laquelle il dit, vous savez combien il est sévèrement interdit à un juif d'avoir des relations avec quelqu'un qui appartient à un autre peuple et même d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il n'est pas permis de qualifier un homme de souillé ou d'impur. Avons-nous tous lu ça ensemble? Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Il doit encore être écrit quelque part qu'il lui a demandé, qu'il a demandé pourquoi ils l'ont appelé. Et puis, ah oui, mais c'est juste ici, justement, au verset 29. Le prochain verset, c'est écrit ici. Ou bien lisons tout le verset 29. Acte 10, verset 29. C'est pourquoi, à votre invitation, je me suis présenté ici sans refuser. Mais je voudrais maintenant savoir pour quel motif vous m'avez fait venir ici. Il voulait connaître la raison. Et Corneille a alors raconté ce qu'il avait vécu et ce qu'il avait vu et comment est-ce que Dieu avait déjà préparé les choses. Bien-aimés, nous devons conclure. Dieu a fait de ce qui n'était pas un peuple, son peuple. Des gens qui n'ont pas demandé après lui. C'est après eux qu'il a demandé, qu'ils ne l'ont pas cherché, il les a cherchés. Et il en a fait son peuple qui lui appartient. Il nous a, c'est ainsi que je crois, acquittés de tout cœur, délivrés, déclarés libres, acquittés de tout. Et ça, je le crois de tout cœur. Et que personne ne se considère comme impur ou bien considère d'autres personnes comme impures, d'autres comme impures, en annulant ainsi l'œuvre accomplie à Golgotha ou remettant en question ce qui s'est passé là-bas. À partir d'aujourd'hui, considérons chacun comme ayant été purifié par le sang, sanctifié par la parole, comme des personnes comblées par Dieu, comme des gens auxquels Dieu passait à côté avant, n'est-ce pas? Vous qui n'étiez pas un peuple, Paul l'a encore exprimé dans Romains 9 et dans l'épître aux Galates. En dehors de la citoyenneté d'Israël, en dehors de l'alliance et des promesses, et maintenant incorporé dans l'Église du Dieu vivant. Et le Seigneur dit, j'habiterai au milieu d'eux et je serai leur Dieu. En guise de dernière question, j'aimerais que l'on réfléchisse à ceci. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas choisi spécifiquement l'Église de Jérusalem dans les sept épîtres, dans les sept écrits envoyés aux églises d'Apocalypse pour y faire référence? Il s'agissait toutes d'églises d'Apocalypse situé en dehors de la zone où se trouvait Israël. La parole était allée aux païens. Le temps des nations avait commencé. Et selon Luc 21, 24, lorsque le temps des païens sera écoulé, Dieu se retournera à nouveau vers Israël. Et selon Romains 11, verset 25, il faut d'abord que le nombre total, que la totalité des nations soit entrée dans l'Église. Un plan glorieux de notre Dieu ne déclare pas impur ce que Dieu a purifié. Comme des aigles, prenons notre envol et renouvelons notre jeunesse. Planons au-dessus des choses de ce monde avec l'aide de Dieu, afin de sentir que nous aussi, nous avons reçu une nouvelle force, une nouvelle consolation, un nouveau courage. Nous sommes venus de la parole de Dieu. Comment est-ce que tu te considères aujourd'hui, comme impur ou comme pur, comme racheté ou non? Pour Dieu, il n'y a pas de demi, il n'y a pas d'œuvre à moitié, mais une œuvre totale, entière. L'Éternel qui a merveilleusement ordonné toutes choses, qui a connu ta vie et la mienne avant que nous soyons, avant que nous existions, et qui a inscrit tous les jours de notre vie dans un livre, avant même qu'ils existent. Ce même Dieu avait déjà prévu tout ce qui allait arriver dans ta vie et dans la mienne. Aucun homme ne doit croire que Dieu est surpris à un moment donné de ce qui nous arrive. Oui, il savait exactement quel chemin tu prendrais et quel chemin je prendrais. Mais savez-vous ce qu'il a su avant cela? Il savait que lorsqu'il nous parlerait, nous accepterions sa parole. David était un homme selon le cœur de Dieu. Toutes ses voies n'étaient pas tout à fait selon le cœur de Dieu, mais il était un homme selon le cœur de Dieu. Avons-nous compris cela? Dieu est un Dieu fidèle et merveilleux. C'est à lui que nous voulons offrir aujourd'hui une louange et une prière de reconnaissance commune, comme jamais auparavant. Nous voulons aujourd'hui remercier Dieu du fond du cœur, même pour ce que nous ne voyons pas encore. Aujourd'hui, nous regardons l'invisible, celui qui a fait les promesses, comme si nous le voyions et le considérions comme fidèle, comme celui qui accomplira ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous tous d'aller de l'avant, mais seulement en plaçant toute notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant, en sachant qu'il fera tout bien. Il en fera sortir la gloire et manifestera sa victoire. Il fera sortir sa gloire et manifestera sa victoire. Loué soit son nom glorieux. Amen. Amen.